C'est après le scanner qu'il est venu me dire, oui, vous avez une inflammation aiguë, on va vous donner des antibiotiques, mais en même temps, on vous a trouvé quelque chose sur le pancréas. Et là, voilà, la machine s'est mise en route, on va dire.
Une maladie, un accident, parfois même une naissance. Et soudainement, une parenthèse plus ou moins longue s'ouvre dans nos vies. C'est dans cet espace, entre un avant et un après, que ce podcast vous emmène. Nous tendons le micro à celles et ceux qui l'ont traversé, ainsi qu'aux spécialistes qui les ont accompagnés. Une fois par mois, entre parenthèses, vous plonge au cœur d'une thématique santé. C'est un podcast proposé par Hirst London, les cliniques Boissard et Cécile, et c'est moi, Laetitia Vider, journaliste, qui vous accompagne dans votre écoute. Une réalisation à Kuoedo Studio. Il arrive parfois que des tumeurs soient découvertes par hasard lors d'examens réalisés pour toute autre chose. Parmi elles, les tumeurs neuroendocrines du pancréas. Des tumeurs rares, souvent d'évolution lente, qui peuvent rester silencieuses pendant des années. On comptabilise 2 à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an en Suisse. Leur fréquence augmente en grande partie parce qu'elles sont aujourd'hui mieux détectées. C'est précisément ce qui est arrivé à Brigitte. Arrivée aux urgences pour une douleur abdominale, elle en repart avec une nouvelle qui va bouleverser son quotidien.
Tout a commencé au mois d'août 2023. J'étais vraiment pas bien toute la nuit. J'avais vraiment des douleurs abdominales hyper violentes. Je me suis dit, est-ce que c'est l'appendicite ou pas? C'était en continu, puis c'était inhabituel et c'était vraiment anormal. C'est pour ça que j'étais quand même en souci. J'ai tenu quand même cette nuit et puis je suis partie aux urgences très tôt le matin. Et puis là, j'ai vu un médecin. On a fait quand même un scanner. Et puis c'est après le scanner qu'il est venu me dire, oui, vous avez une inflammation aiguë, on va vous donner des antibiotiques. Mais en même temps, on vous a trouvé quelque chose sur le pancréas. Et là, voilà, la machine s'est mise en route, on va dire. Là, j'ai accusé le coup, c'était quand même pas facile. On se pose des questions. Je suis arrivée chez moi, ben évidemment que je tournais en rond. J'ai rien fait pendant 2 jours. Je me disais, qu'est-ce que je vais devenir? Il y avait, disons, un grand moment d'incertitude. Puis je me disais aussi, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que je vais informer ma famille tout de suite? Est-ce que j'attends? Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes et de questionnements à ce moment-là. Donc, j'ai fait l'IRM. J'ai dû faire une biopsie après, donc sous narcose. Et là, j'ai passé une journée à l'hôpital. Le gastro-entérologue qui m'avait fait l'examen, je lui avais demandé en fait, après l'examen, ce que c'était. Et il ne voulait pas me dire. Il m'a dit, écoutez, je suis un petit peu pressée. Mais je pense qu'il ne voulait pas. Il attendait que ce soit mon médecin qui me transmette, mais j'ai insisté. Et puis, il m'a dit, écoutez, ça ne ressemble pas du tout à un cancer, mais il faut quand même analyser, il faut voir ce que c'est. Alors, c'était une tumeur neuroendocrine. Donc, qui n'était pas propagée, elle était complètement isolée.
Le docteur Emmanuel Melloul, spécialiste en chirurgie viscérale à la clinique Cécile.
Les tumeurs neuroendocrines sont des tumeurs spéciales qui sont en général issues d'un tissu autre que les cellules qui forment la trame d'un organe. On a deux types de tumeurs neuroendocrines, celles qui sécrètent des hormones et qui peuvent donc perturber le métabolisme hormonal, comme par exemple l'insuline ou alors le glucagon ou d'autres hormones. Elles peuvent être souvent asymptomatiques pendant plusieurs années, ne rien ressentir, et c'est quand elles atteignent un certain volume qu'elles commencent à être symptomatiques, d'où la difficulté souvent de les diagnostiquer. Elles sont d'ailleurs souvent diagnostiquées par hasard quand on fait un examen pour une autre pathologie. Il faut bien distinguer des tumeurs agressives comme le cancer du pancréas, qui est vraiment, si on fait un ordre de sévérité et de gravité, le cancer du pancréas vient tout en haut de la pyramide, et des lésions bénignes comme les tumeurs neuroendocrines, qui pour la plupart du temps sont des tumeurs d'évolution lente et qui, dans la plupart des cas, ne sont pas agressives. En général, c'est lié à des origines génétiques, avec des maladies génétiques et des syndromes qui associent d'autres pathologies comme des problèmes de thyroïde ou encore des glandes surrénales, etc. Et donc ça peut être associé à certains syndromes, mais elles peuvent être aussi tout à fait isolées sans qu'on ait un facteur de risque bien défini. Elles peuvent toucher n'importe quelle tranche d'âge de la population, des plus jeunes comme des personnes plus âgées. Et souvent, les personnes plus âgées, c'est là où elles sont plus agressives.
J'ai vu le chirurgien, il m'a tout de suite dit, on a un traitement pour vous en médecine nucléaire, donc, qui va durer une année. Là, je n'entendais pas trop les détails, mais on m'a dit que ça durerait une année. Donc, j'ai été d'accord. J'ai commencé dans ce service de médecine nucléaire, mais là, c'était très, très lourd parce que je suis arrivée dans une salle, ou une grande salle qui ressemblait à un hall de gare avec des sièges partout, des malades de tout âge. J'avais été très, très choquée. Mais j'ai quand même accepté de faire ce traitement pendant 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à Noël. J'avais commencé en octobre, j'ai été jusqu'à Noël, puis après j'ai quand même demandé à voir le médecin chef du service de la médecine nucléaire pour je remettais en question ce traitement. C'était trop lourd psychologiquement, physiquement, puis je me disais « oh, ça va durer une année, c'est trop long ». Puis je savais qu'il y avait 2 chemins possibles. C'était soit ce traitement de médecine nucléaire pour réduire la lésion, soit une opération. Donc tout s'est mis en route, l'opération, tout le monde était d'accord, j'ai signé les papiers de consentement, on a préparé la date, puis tout s'est passé très très vite. Je n'ai pas trop eu le temps de réfléchir. Je me suis mise aussi en forme pour cette opération, donc on m'avait dit c'est bien que tu te mettes, que tu sois bien physiquement, donc j'ai beaucoup marché en montagne, en ville, partout. Puis en même temps, ben, j'avais des contacts très étroits avec le chirurgien qui allait m'opérer et puis il me rassurait, j'avais beaucoup besoin d'être rassurée parce qu'il y avait une certaine appréhension quand même.
Les tumeurs neuroendocrines, on a un panel de traitements qui est possible. Ça va des traitements locaux à des traitements plus poussés médicamenteux jusqu'à des traitements de type chimiothérapie dans les formes les plus agressives. Et donc c'est pour ça qu'on a différents grades et stades de ces tumeurs. Et en fonction du grade et du stade de la tumeur, donc c'est ce qui va définir l'agressivité de la tumeur, on va décider, comme souvent dans ce type de pathologie, dans une réunion multidisciplinaire de spécialistes, quelle est la meilleure stratégie pour traiter ces tumeurs. On essaye d'obtenir une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement d'un petit bout de la tumeur pour savoir son agressivité. Et en général, elle est définie par son taux de réplication cellulaire. Ça veut dire que si elle se réplique de façon très lente, ce qui est souvent le cas, c'est pour ça que dans ces cas-là, on peut très bien les suivre parce que la tumeur va prendre peut-être 1 mm en plusieurs années et donc ne nécessite pas forcément un traitement. Par contre, suivant la taille et le taux de réplication, à ce moment-là, ça peut nécessiter soit des traitements locaux, soit une chirurgie suivant sa localisation et sa taille. Pour les tumeurs neuroendocrines du pancréas, plus précisément, la chirurgie va dépendre de la localisation de la tumeur dans le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est très graisseux et qui est localisé derrière l'estomac, entouré de graisse, d'où la difficulté souvent de faire des diagnostics quand on a une tumeur dans cette région-là, parce que les patients deviennent symptomatiques seulement à partir d'une certaine taille et d'un envahissement d'une structure adjacente. Et donc chez ces patients, la stratégie chirurgicale va dépendre de la localisation dans le pancréas. Le pancréas, il a 3 parties qu'on détermine par la queue, le corps et la tête du pancréas. Et suivant la localisation dans ces 3 parties, la chirurgie peut être mineure ou majeure.
Brigitte va subir l'intervention la plus importante et elle arrive malgré tout au bloc plutôt sereine.
J'avais le sourire, j'étais détendue parce que j'avais beaucoup parlé au chirurgien. Il m'avait toujours dit « mais vous verrez, tout se passera bien, soyez zen ». Donc je suis partie vraiment en confiance. Je suis rentrée en fait dans la salle d'opération quand même tôt le matin, c'était 8h30, 9h, puis je suis ressortie qu'à 4h30. Là, c'était fantastique parce que j'avais vu l'horloge 4h30, je n'avais pas perdu mes repères, j'étais quand même contente. Et puis le chirurgien est à côté de moi pour me dire que tout s'était bien passé, il me rassurait, il m'a dit qu'il avait informé ma famille et puis que tout était OK. Puis après, je suis montée dans la salle des soins continus. Et puis, ben, toutes les 2-3 heures, ça roulait, enfin, j'avais beaucoup d'infirmières qui me faisaient des soins, on me réveillait, c'était toute la nuit, tout le jour. Et ça a duré peut-être une dizaine de jours, puis après je suis rentrée dans une chambre normale.
Si Brigitte a vécu son intervention avec confiance, c'est aussi parce qu'elle est très vite devenue partie prenante de toutes les décisions médicales qui la concernaient, aux côtés de l'équipe multidisciplinaire qui l'entourait.
Alors, il est important de l'impliquer dès le début, en fait, parce que c'est prouvé, d'ailleurs, scientifiquement, que le patient partenaire fait partie du processus de la démarche thérapeutique, et il est primordial que le patient reste au centre du traitement et qu'il doit avoir une implication également dans la démarche thérapeutique. Mon conseil, c'est dès qu'une tumeur neuroendocrine est diagnostiquée, il faut aller auprès d'équipes qui ont l'habitude de gérer ce type de tumeur parce qu'elles sont pas si fréquentes. Et donc, surtout comme dans un pays comme la Suisse, où on a une population beaucoup moins importante que dans d'autres pays, donc ce nombre de patients est beaucoup moins important. Et donc, il faut surtout se diriger, comme je vous ai dit, dans des équipes qui ont l'habitude de gérer ces tumeurs, parce que c'est une approche multidisciplinaire, encore une fois, et c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ça qu'il faut mettre en route très vite quand on fait ce diagnostic, c'est de s'entourer d'une équipe multidisciplinaire qui a l'habitude de gérer ce type de tumeur. Et c'est là qu'on a les meilleures chances d'avoir un traitement optimal.
Même préparé, même expliqué, une chirurgie du pancréas reste une intervention lourde qui comporte certains risques.
Toute ma vie, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient malades, mais j'ai jamais rien eu, j'ai été malade, jamais pris d'antibiotiques, pas de médicaments. Là, je me disais, mais je serai solide, je vais résister à tout. Ben non, j'ai quand même fait une embolie pulmonaire. Ben, je suis fragile quand même de ce côté. J'ai fait une pneumonie, j'ai eu une fistule pancréatique, j'ai eu des infections, beaucoup d'infections, et c'est ce qui a fait que j'ai dû faire 2 mois d'hôpital. Parce que c'était difficile à guérir, quoi. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais le chirurgien qui était toujours à côté de moi, qui venait de me voir 2 à 3 fois par jour pour me rassurer, me dire comment ça allait se passer. Il était vraiment transparent. Et ça, je pense que c'est très, très important pour créer des liens, puis la confiance. Et là, je pouvais vraiment compter sur lui. J'ai eu aussi des très, très bons contacts avec les infirmières, les médecins, aussi les pharmaciens du quartier. J'ai aussi eu une physio. Donc vraiment très très entourée. Et puis évidemment à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de visites, des amis, j'ai eu mes anciens collègues qui sont devenus vraiment des amis que je revois très souvent. C'était presque familial à certains moments. Des fois j'étais avec d'autres patients, je les rassurais aussi, j'utilisais un peu mes compétences puisque j'étais dans le métier. Donc j'ai pas vu le temps passer de voir comme ça tout ce monde.
Il faut savoir que le pancréas c'est un organe très graisseux. Et souvent, ces tumeurs neuroendocrines se développent sur des pancréas mous ou gras. Contrairement au cancer du pancréas, qui lui induit beaucoup d'inflammation sur la glande pancréatique, et donc qui stimule du tissu cicatriciel dans le pancréas, qui fait que le pancréas devient plus dur et qui rend les sutures sur cet organe beaucoup plus faciles. Tandis que la tumeur neuroendocrine, comme c'est des tumeurs d'évolution très lente, dans des pancréas très mous et qui fait très peu d'inflammation dans cette région, et ben souvent, c'est ces patients-là qui ont plus de risques de complications parce que la glande pancréatique, quand on doit la suturer à d'autres organes comme l'intestin ou l'estomac, et ben, ça crée des risques de fuite importantes parce que c'est un peu comme suturer dans du beurre. Et donc ces glandes-là sont en général plus à risque dans la période post-opératoire. Plus la glande est grasse avec des canaux pancréatiques très fins, plus il y a de risques de ce qu'on appelle une fistule pancréatique, c'est-à-dire une fuite de liquide pancréatique dans la cavité abdominale. Il faut savoir que le pancréas produit beaucoup de sécrétions en grande quantité. Une partie est déversée dans le sang et une autre partie via son canal principal dans l'intestin. Et donc quand on doit suturer ce canal à l'intestin lors de la reconstruction, comme par exemple lors de la plus grosse chirurgie qu'on fait du pancréas, qui est la duodéno-pancréatectomie céphalique, où on doit enlever la tête du pancréas et reconstruire une connexion entre le pancréas et l'intestin, c'est là qu'on a des gros risques de cette fuite pancréatique. Le liquide pancréatique qui chemine dans les canaux pancréatiques puis dans l'intestin, c'est ce qu'on utilise pour la digestion. Et donc c'est assez corrosif et il faut s'imaginer que si ce liquide pancréatique passe à l'extérieur de l'intestin dans la cavité abdominale, eh ben, ce liquide pancréatique va provoquer des dégâts parce que ça va éroder notamment des artères, des veines. Et la complication numéro un qui peut arriver après ce type de fuite, c'est l'hémorragie, donc le saignement post-opératoire qui peut être plus ou moins bien contrôlé suivant l'artère ou la veine qui est atteinte, mais on a des moyens de les traiter rapidement, et d'où l'importance d'effectuer ce type de chirurgie dans des équipes qui ont l'habitude de faire ce type de chirurgie, parce que c'est vraiment un travail d'équipe qui nécessite non seulement le chirurgien, mais aussi des anesthésistes compétents, des intensivistes, des radiologues interventionnels et des endoscopeurs pour ce qui est de la gastroentérologie. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et comme je dis souvent à mes patients, le plus important, c'est bien sûr qu'on n'aime pas avoir une complication, mais ce qui est important, c'est de savoir gérer ces complications-là. Et la gestion de ces complications, c'est ce qui fait la pluridisciplinarité de la prise en charge de ces patients-là.
Après quelques semaines, Brigitte sort de la spirale des complications, qui s'explique notamment par la technique invasive de l'intervention. Elle lui laisse un souvenir de quelques centimètres sur la peau.
Je crois presque 40, 35 centimètres, on va dire, j'avais mesuré une fois, mais une très très belle cicatrice qu'on ne voit quasiment plus, qui a été très bien faite. Elle disparaît, mais j'ai aussi eu une aide d'une physiothérapeute qui a travaillé les fascias. Ça m'a fait beaucoup de bien et puis ça a permis aussi à soigner cette cicatrice en faisant des massages, les fascias et puis à retrouver aussi toute la souplesse de l'endroit où j'ai été opérée. Oh, c'était vraiment une grande cicatrice. Hein. Je crois qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'ouvrir.
C'est des opérations alors, qui peuvent être faites soit par voie ouverte, qui est pour les grosses chirurgies, soit par chirurgie minimale invasive, qu'on utilise de plus en plus, et même la chirurgie robotique, qui deviennent des standards dans les équipes expérimentées pour faire ce type de chirurgie. Et donc souvent, par exemple, pour les tumeurs qui sont localisées dans la partie gauche du pancréas, on utilise la chirurgie minimale invasive, donc avec des petits trous, et assistée même parfois avec la chirurgie robotique pour permettre vraiment de faire des petites incisions, et ce qui permet une récupération beaucoup plus rapide après la chirurgie et un bénéfice clair pour le patient. Donc si on fait par voie ouverte, les durées d'hospitalisation moyenne pour les chirurgies majeures du pancréas, c'est en tout cas une 14-15 jours. S'il y a des complications, ça peut être même plusieurs semaines.
Après 2 mois d'hospitalisation, Brigitte peut enfin retourner chez elle.
À la sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi. J'ai eu une très proche amie qui est venue ici pour me faire des petits plats, me préparer, peut-être aller faire des achats aussi. Donc j'étais encore entourée. Et puis j'étais suivie encore par le chirurgien, bien sûr. J'allais le voir toutes les semaines, sauf erreur au début, après toutes les 2 semaines, tous les 3 mois et tous les 6 mois. J'étais suivie aussi par des infirmières qui venaient me voir une fois, 2 fois par jour pour me changer les pansements. Donc j'étais encore très bien soutenue. Et puis j'allais voir le médecin. C'est vrai que d'aller le voir, c'était vraiment mon meilleur médicament.
On reprend une vie normale, mais ça prend du temps. S'il y a eu des complications post-opératoires, ce laps de temps est beaucoup plus long. Quand on fait des chirurgies majeures de la tête du pancréas, il faut compter en tout cas 6 à 8 semaines de récupération après la chirurgie. S'il n'y a pas eu de complications, il peut y avoir un délai beaucoup plus long, voire de 3-4 mois.
Je suis très attentive à la nourriture, j'ai toujours fait attention, mais là j'ai encore fait plus attention. C'est-à-dire, je n'ai pas mangé gras, je devais faire quand même très attention. Je ne pouvais pas manger évidemment des fondus, puis je n'ai encore pas mangé de temps en temps une ou deux petites raclettes quand l'occasion se présente. Mais je mange beaucoup de fruits, de légumes, et puis je mange sans sel aussi. Mais ça c'est un petit peu des habitudes et par goût. Et je ne fume pas, je ne bois pas, je marche, donc, puis je dors très bien aussi. J'essaye d'avoir quand même une hygiène de vie, encore pour le moment, bonne, quoi. Je fais attention à ça. Puis là, je pense que j'ai repris ma vie normale, tout va bien. Il y a juste les médicaments que j'essaye comme ça d'arrêter progressivement. J'en avais beaucoup quand je suis sortie de l'hôpital et puis maintenant, je me retrouve avec qu'en comprimé.
En règle générale, la plupart des patients récupèrent une alimentation normale. Il y a parfois certains aliments qui étaient mieux tolérés auparavant et qui le sont moins. Donc, mais le corps s'adapte et puis il faut, avec le temps, tester son tube digestif et c'est lui qui va dicter la suite. Il n'y a pas d'aliments interdits. On peut reprendre une alimentation précoce avec tous les aliments qu'on utilise tous les jours. Alors c'est sûr qu'un patient ne va pas manger une fondue 3 jours après une grosse chirurgie du pancréas, mais voilà, ça prend du temps et en règle générale, on arrive à se réalimenter normalement.
Mais c'est aussi une aventure humaine qui s'est tissée derrière cette expérience médicale.
Ce qui reste, c'est que j'ai établi vraiment des très très bonnes amitiés. J'ai des très bons contacts avec des infirmières, notamment une qui est à mon âge, qui a arrêté en fait il y a déjà quelques temps. Puis on a gardé des contacts, on part des fois en voyage ensemble, donc c'est très sympathique. Et puis ben évidemment aussi avec les pharmaciens du quartier, on me demande toujours comment ça va. Donc j'ai vraiment des liens très proches comme ça, et ça a été vraiment une très très belle expérience à ce niveau-là. Mais j'ai eu des hauts et des bas, c'est vrai, des encouragements, des découragements, il y a eu des peurs, des joies, ça c'est sûr, mais je me suis toujours aussi montrée positive, avec l'espoir de guérir au plus vite. Je savais au fur et à mesure comment les choses allaient se passer, les examens qu'on allait me faire, ça à créer quand même une confiance. Hein. Les conseils, c'est, je pense, d'être toujours optimiste, prendre soin de soi, parler aussi avec son entourage, oser poser des questions si on n'a pas compris certaines choses. C'est important de faire appel aussi à une personne extérieure, à un psy, par exemple, pour parler de ses peurs, pour parler de la mort, hein, tout simplement, pour parler aussi de ses inquiétudes. On a vraiment besoin de métaboliser, quoi, de débriefer. Ça, c'est super important. Puis c'est un complément par rapport à tout ce que j'ai reçu sur le plan de la chirurgie et des soins médicaux.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouvez des ressources en lien avec les tumeurs neuroendocrines du pancréas en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous.